très belle journée à l'écoute d'Europe 1. Il est 13h.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez désormais, vous montrer que oui, les choses bougent ici, chez nous en France, et que c'est souvent grâce à vous. Gros plan aujourd'hui sur un secteur qui reprend des couleurs, c'est celui du vélo. De plus en plus d'adeptes en France et un impératif, partager la route. Vous allez voir qu'il y a en la matière d'état d'innovation. Elle fêtera ses 100 ans l'année prochaine. À ses débuts, c'est vrai, elle a révolutionné l'univers du linge de maison avec ses imprimés Porto et l'entreprise qui va bien, merci. Enfin, vous perdez tout le temps vos papiers, vos clés, et s'il existait un outil pour vous aider à les retrouver, Wistiki est ce lundi la solution imaginée par trois frères. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, vous connaissez évidemment le numéro à composer si vous voulez être en direct tout à l'heure avec nous sur Europe 1 pour poser, Anissa, vos questions à nos invités.
Oui, vous pouvez également nous apporter vos témoignages. Vous avez décidé de pédaler pour vous déplacer. Eh bien, venez nous le dire, vous êtes cycliste en ville ou à la campagne. 3921, c'est le standard. Hashtag Europe 1, ça c'est sur Twitter, on lit tous vos messages.
Et vous allez voir que nous sommes effectivement de plus en plus nombreux à adopter le vélo pour nous déplacer, et que cela induit évidemment de nouvelles règles sur la route pour tous ceux qui l'utilisent. Pour accueillir nos invités comme chaque jour, à mes côtés, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Sylvain Lambert de PwC. PwC qui est à l'initiative évidemment du mouvement Let's Go France. Bonjour Sylvain.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Quand on parle vélo, on a tous, c'est vrai, la même image hein, en tête, une selle de roue, un guidon, des pédales. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez voir que c'est beaucoup plus que ça, un vélo. Bonjour Adrien Lelièvre.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous dirigez le groupe Véloci, groupe que vous avez vous-même créé en 2016. Votre histoire et celle de votre vélo dont on va parler, elle commence en fait bien avant tout ça, parce que si on remonte, vous avez travaillé chez Excelia et vous aviez finalement déjà en tête de créer un nouveau produit, c'est ça?
C'est tout à fait ça. En fait, j'ai commencé ma carrière au sein du groupe Excelia. Et j'ai terminé comme directeur industriel de ce groupe. Et j'avais comme projet de créer une nouvelle entité pour fabriquer des supercondensateurs. Donc c'est un composant électronique qui est à mi-chemin entre le condensateur et la batterie. Et j'ai créé donc le groupe Véloci Industrie en 2016 exactement, qui est en fait un groupe de trois PMI dans le secteur de la sous-traitance électronique et mécanique, basé à Orléans et près de Paris aux Ulysses. Donc aujourd'hui, c'est un groupe qui représente trois PMI, ST2E, FLH et MSI, qui regroupe une équipe de 35 personnes.
Oui, parce que si on remonte un petit peu en amont hein, de tout ça, vous avez en fait essayé de développer vos projets et votre vélo à l'intérieur d'Excelia, puis ça n'a pas fonctionné, donc vous avez démissionné en 2015, et puis vous avez commencé à racheter effectivement ces PMI, une, puis deux, puis trois, pour former le groupe.
Exactement. Alors, Excelia, sa vocation, c'était pas de fabriquer des vélos, bien entendu. Par contre, c'est vrai que le début du projet, c'était la création donc d'une nouvelle entité qui fabriquerait des supercondensateurs. Sur cette base-là, mon souhait, c'était justement de créer des systèmes à partir de ce composant, d'où effectivement les reprises de ces trois sociétés ST2E, FLH et MSI, pour en fait avoir le panel de compétences de base, donc en électronique et en mécanique, pour créer des produits propres. D'ailleurs, j'en profite pour saluer très chaleureusement toute mon équipe à Orléans et à Paris.
Oui, parce que c'est effectivement avec l'équipe hein, qu'on peut construire un projet. ST2E qui est spécialisé dans la sous-traitance en électronique, c'est ça?
Électronique. ST2E est spécialisé dans la sous-traitance électronique, principalement câblage filaire et intégration. MSI, câblage de cartes électroniques, et FLH, la mécanique, l'usinage de précision.
Alors là, vous savez, les gens qui nous écoutent sont en train de se dire, mais attends, elle nous parle de quoi aujourd'hui? Elle nous parle de vélo, parce qu'on parle d'électronique, on parle de câblage. Comment on arrive au vélo? Parce que c'est un vélo, on ne l'a pas dit, ou peut-être pas assez bien dit, un vélo électrique.
Tout à fait. C'est le premier vélo 100% électrique, sans batterie et sans recharge. Donc effectivement, c'est une innovation majeure qui a été possible par la réunion de différentes compétences, et notamment à travers les compétences historiques, l'expérience des équipes de ST2E, FLH et MSI, qui permettent de produire en fait un produit à la frontière de différents domaines.
Alors, ça veut dire que je m'assieds sur le vélo, je pédale, comme on fait tous hein, quand on est sur un vélo, et c'est moi, cycliste, qui vais finalement générer de l'énergie.
Tout à fait. En fait, aujourd'hui, je vous remercie de m'inviter au lancement de notre nouvelle marque, qui est Youfeel.
Oui.
Youfeel, donc UFEEL.fr.
Qui est le nom du vélo. Hein.
Qui est le nom de la marque qui va commercialiser le vélo, en fait, printemps 2020. Le principe, il est très simple. C'est que l'utilisateur n'a plus à se soucier des redémarrages après un feu rouge, après un stop, une côte, des ralentissements sur le trafic. En fait, l'utilisateur pédale à son rythme, comme il respire, en fonction de sa condition physique, pour vraiment transformer tous ses déplacements en véritable belle balade en toute sécurité.
Alors, que dit notre coach qui vous écoute avec beaucoup d'attention, Sylvain Lambert?
Oui, même s'il ne pédale pas beaucoup, il s'intéresse beaucoup au sujet. Il y a une des choses qu'on reproche à la batterie, entre autres, qui est qu'elle a une durée de vie.
Tout à fait.
Et qu'on se pose des questions pour après, c'est dans le débat qu'on a sur l'automobile. Les supercondensateurs, moi j'ai deux petites questions. D'où ils viennent? Tout est fabriqué, parce qu'on sait que les batteries, on en fait beaucoup en Chine, on en fait en Allemagne avec celle de Bosch. Mais les supercondensateurs, d'où ils viennent et quelle est leur durée de vie? Beaucoup plus longue, beaucoup plus courte, infinie?
Alors les supercondensateurs présentent effectivement trois principales caractéristiques majeures qui les distinguent des batteries. Ce ne sont pas des batteries, donc elles n'ont pas non plus le même usage. Mais les supercondensateurs, donc, contrairement aux batteries, n'utilisent pas de ressources qui nécessitent donc qui ont des problèmes d'exploitation ou de recyclage. Les supercondensateurs sont principalement basés sur du carbone et de l'aluminium, donc ils ne posent pas les problèmes qu'on connaît pour les batteries actuelles. Ça, leur durée de vie est bien plus longue, effectivement, puisque les meilleures batteries actuellement ont des cycles de quelques milliers de cycles, ont une durée de vie de quelques milliers de cycles, alors que les supercondensateurs, l'ordre de grandeur est du million de cycles.
Ça répond à votre question, Sylvain. Elisabeth, on n'a pas dit, hein, mais le monde du vélo électrique se porte plutôt bien, il me semble.
Vraiment très très bien. Les ventes de vélos électriques ont quasiment doublé en un an. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2017, près de 255 000 vélos électriques ont été vendus en France. Et c'est un record absolu. Des ventes qui ont quasi doublé en un an, une hausse de plus de 90%, des chiffres d'affaires qui ont été multipliés jusqu'à 5 en l'espace de 5 ans. Donc c'est un secteur qui se porte très très bien. Il y a beaucoup d'entreprises qui se montent autour de ça d'ailleurs.
Et au niveau prix, on est comment?
Alors ça varie beaucoup. Ça va de 700 euros à presque 10 000 euros si on veut. Hein. Si on veut mettre beaucoup d'argent, c'est possible. La moyenne se situe aux alentours de 2 000 à 2 500 euros notamment pour les vélos urbains.
Et ce sera le cas des vélos Youfeel que vous êtes en train de préparer pour 2020, hein, c'est ça la commercialisation?
Tout à fait. Je me doutais qu'effectivement il y aurait la question.
Et donc, c'est normal.
C'est important. C'est tout à fait important. Et donc notre souhait, c'est justement en fait d'avoir un prix équivalent aux vélos à assistance électrique actuels, puisque aujourd'hui on a une technologie en fait de pointe, mais on n'a plus de batterie et qui représente en fait un coût important sur ces structures.
Donc vous dites on sera plutôt vers les 700 euros, plutôt vers les...
Dans le prix moyen, donc entre 1500 et 2000 euros.
Bon, et donc commercialisation à partir de 2020, début 2020, fin 2020?
Pour les beaux jours de 2020.
Pour le printemps 2020. On reste ensemble, on continue à parler vélo aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Un feu connecté sur le casque de cycliste ou sur la selle, oui, c'est possible, c'est français et c'est Cosmo Connected. À tout de suite.
La France bouge tous les jours entre 13h et 14h sur Europe 1 et aujourd'hui la France pédale puisqu'on s'intéresse au vélo et à la circulation à vélo avec des questions d'innovation, de sécurité et les entreprises françaises à innover sont très nombreuses, vous les recevez aujourd'hui Raphaël Duchemin, vous pouvez bien sûr réagir à cette émission 3921 le standard, hashtag Europe 1 sur Twitter pour vos messages.
Et il existe, c'est vrai, plusieurs problèmes pour les cyclistes, être vus et surtout faire comprendre aux automobilistes que le deux roues ralentit, ça aussi c'est un véritable problème. Bonjour Romain Afflelou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'actuel président de Cosmo Connected. La société existe, elle, depuis 2015. Au départ, je crois, quand débute l'aventure, c'est d'abord aux motos qu'elle s'adresse et que s'adresse le produit qui a été créé.
C'est cela. On a développé en fait un premier produit pour optimiser la visibilité des motards. L'idée, c'est de leur permettre d'être visibles à hauteur d'yeux. Et on voulait un produit autonome qui indique qu'on est en train de ralentir, même si on n'appuie pas sur le frein. Donc, il y avait un accéléromètre qui détectait la vitesse. Et lorsque vous allez ralentir, le produit allait s'allumer. Mais aussi, on voulait avoir la possibilité de détecter lorsque le motard chute. Et là, donc, on a mis un gyromètre qui va détecter lorsque le motard chute. Et à partir de là, on a la possibilité de soit prévenir des proches, soit prévenir les secours.
Très vite, ça évolue et vous vous dites finalement, si ça marche avec les motos, ça doit aussi marcher sur le même principe avec les vélos. C'est-à-dire que je suis sur mon vélo, je suis en train de pédaler, je vois que ça ralentit, je commence à décélérer. Là, j'ai sur mon casque ou à l'arrière de mon vélo quelque chose qui le signale aux automobilistes qui sont derrière moi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a gardé la même technologie, on a juste miniaturisé le produit. Et donc, lorsque vous allez ralentir, décélérer, le produit va s'allumer comme si vous appuyez sur le frein en fait, de votre vélo.
Alors, c'est quoi ? C'est sur mon guidon ? Comment ça se passe ? Vous avez la possibilité de nous faire une démonstration pour ceux qui sont avec nous sur Europe1.fr.
Alors, en gros, tout simplement, donc, le produit va s'allumer à la décélération, donc dès que vous allez ralentir. Et on a rajouté juste d'autres fonctionnalités avec un système de clignotant, comme vous l'avez signalé tout à l'heure.
Bah, on n'a plus besoin de mettre le bras à droite ou à gauche pour tourner,
donc,
c'est ça ?
Exactement, vous avez juste une petite télécommande que vous fixez sur justement cette fixation élastique, amovible. Et donc, lorsque vous allez tourner à droite, vous allez appuyer sur la flèche de droite et vous allez le voir normalement.
C'est génial.
Voilà,
ouais,
comme
ouais,
ça.
On
donc,
voit,
vous
ouais.
gardez les mains sur... sur le guidon, voilà, vous le voyez.
Et ça s'allume à l'arrière du casque ou à l'arrière de la selle, hein, ça dépend, on le met où on veut.
Exactement, en fait, le produit, il est tout petit, il est simple comme ça.
Il se clip ?
Il peut se clipser donc, soit sur n'importe quel type de casque, ou soit directement sur la selle, ou sur le vélo, sur le porte-bagages. Et les deux peuvent même fonctionner ensemble. Donc vous pouvez par exemple avoir une double visibilité et indiquer doublement que vous tournez à gauche ou à droite.
Ça, c'est une nouveauté. La possibilité, exactement, justement, d'indiquer la droite ou la gauche, c'est quelque chose qui n'est pas encore lancé, qui sera très bientôt sur le marché.
Voilà, dans une dizaine de jours, on l'a testé depuis le début d'année avec des bêta-testeurs, avec des cyclistes, et on a eu des super retours. Effectivement, en fait, notre idée, c'était de permettre aux cyclistes de garder leur manière de conduire, voilà, pas de mettre un produit qui soit trop lourd, et voilà, que ça ne leur change pas leur manière de conduire. Et en cas d'accident, bah, ils ont la possibilité de prévenir les proches en donnant la position GPS.
Oui, vous avez travaillé sur les chutes comme pour les motards, c'est-à-dire qu'il y a une technologie embarquée qui permet de détecter la chute, d'effectuer plusieurs appels et, s'il n'y a pas de réponse du cycliste, de prévenir les proches.
Voilà, en quelque sorte, 2 minutes après la chute, le produit va identifier la chute, va envoyer en millisecondes une notification sur le portable du cycliste en disant « est-ce que tout va bien ?» Si le cycliste n'est pas en mesure de répondre qu'il ne va pas bien, voilà, et ben on aura la possibilité de prévenir 3 personnes de son choix en disant « voilà ».
Qu'on aura pré-rentré dans la liste du téléphone, hein, c'est ça ?
Les contacts d'urgence, et en fait on donnera tout simplement le lien GPS en disant « voilà, ben, le Cosro de Romain est tombé sur la départementale 7 à 6 heures du matin par exemple ».
Que dit notre coach de cette innovation ?
Mais il a toujours 2 questions. Une technique, une commerciale. La technique, on sait que le temps de réaction au freinage est quelque chose d'important. Mm-hmm. Quel est le temps de réaction de la détection d'un freinage à moto ou en vélo pour que ça s'allume ? Et commercialement, aujourd'hui, où en êtes-vous de l'exploitation du produit ? C'est-à-dire, est-ce que je sors là du studio avant de remonter sur mon vélo ? Vite, il m'en faut un, je peux l'acheter ? Ou on est encore en phase de développement ?
Alors, pour répondre à vos 2 questions, premièrement, bah oui, effectivement, notre savoir-faire avec nos ingénieurs que je félicite, parce qu'ils ont fait un boulot de fou depuis 3 ans, on réussit à détecter justement le ralentissement. Donc, si je suis en moto, ben, ça va vraiment être le sentiment de perte de vitesse. Le produit ne va pas s'allumer dès que je vais perdre 1 km/h. Donc, si je suis à 80 km/h sur le périphérique, je lâche l'accélérateur. Dès que je vais perdre 5 km/h, bah le produit va s'allumer.
Ça, c'est pour les motos, c'est pas pour les vélos.
Exactement. Et pour les vélos, on a réajusté un petit peu le seuil, mais concrètement, on indique qu'il s'allume comme si on appuyait sur le frein, quoi, quand on a vraiment le sentiment de perte de vitesse.
Et sur la commercialisation, alors on a dit le nouveau produit, c'est 22 mars, voilà, mais il y a déjà une partie des produits qui sont commercialisés, qui sont même très bien vendus, hein, si j'ai bien tout compris.
Oui, ben, on a fait donc un premier test juste après le salon du CES à Las Vegas, et on a été un petit peu en rupture, et on s'est dit on va y aller plus progressivement. Donc là, le produit, vous pourrez le trouver dès la semaine prochaine, que ce soit des enseignes comme Boulanger ou des enseignes plus pour le vélo, que ce soit Neuroto ou que ce soit Altermove et tous les réseaux vélo.
Elisabeth, il y a d'autres entreprises françaises, je crois, qui ont lancé des accessoires, on peut les appeler
oui,
comme ça, pour
vélo. Dans le même esprit, vous avez des dispositifs lumineux de sécurité qui ont été lancés par une start-up toulousaine qui s'appelle Road Light. Ils ont peut-être que vous connaissez, ils ont un dispositif click light qui permet au vélo d'avoir sur aux personnes, aux cyclistes, d'avoir sur le dos un boîtier amovible qui sert de troisième feu de stop et de clignotant. Vous avez aussi le galuchon, c'est un sac à dos clignotant, ou encore le gilet airbag pour cyclistes. Ça, c'est Elite, H-E-L-I-T-E, qui le commercialise et eux, ils sont basés à Dijon.
On reste ensemble, on continue à parler vélo aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Partager la route avec les autres utilisateurs, c'est le problème numéro 1. C'est l'ambition de Mon Vélo est une vie. C'est une association, on la découvre ensemble dans une minute.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, Raphaël, on s'intéresse à ceux qui ont choisi de circuler à vélo. On parle innovation, on parle également sécurité aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions aux invités de Raphaël. 3921, c'est le standard. Vos réactions, vos témoignages sur Twitter aussi avec le hashtag Europe 1.
Et je suis sûre que si vous êtes automobiliste, vous avez déjà pesté devant un motard qui vient se coller à l'avant de votre pare-choc ou d'un vélo qui grille un feu. Et si vous êtes un deux-roues, évidemment, c'est la même chose. Partager la route, c'est le problème numéro 1 aujourd'hui. Bonjour Teodoro Bartuccio.
Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé en 2017 l'association Mon Vélo est une vie. Alors à l'époque, je crois que vous étiez vous-même directeur sportif au Vélo Sporting Club du Bourget. Mais c'est en fait quand une de vos connaissances est décédée à la suite d'un accident, il y a eu un choc avec un camion, que vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose, je ne peux pas m'occuper que du côté sportif, il faut aussi qu'on fasse des actions au niveau sécuritaire.
Tout à fait. En fait, en mai 2017, j'ai perdu une connaissance qui a été fauchée par un camion. Et en fait, depuis un certain temps, il y avait vraiment, on le voyait bien sur les réseaux sociaux, qu'il y avait un vrai problème de sécurité par rapport à la pratique du vélo. Et donc, j'étais directeur sportif au sein du Vélo Club de l'agglomération du Bourget. Et j'étais vraiment sur l'aspect sportif, on va dire. Et ce soir-là, quand j'ai appris la mort de cet ami, j'ai décidé de réagir et de faire un rassemblement. Donc j'ai posté une vidéo pour appeler un rassemblement afin d'alerter l'État, tout simplement par rapport à la sécurité des cyclistes. Et puis cette vidéo, elle a été vue plusieurs fois. Et puis voilà. Et puis,
oui, ça a fait boule de neige. Oui, et vous avez réussi à interpeller les pouvoirs publics.
Tout à fait. En fait, on a rassemblé plus de 1000 personnes à Paris et d'autres rassemblements ont été faits le même jour. On a été vraiment médiatisé et on a été reçu par le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Sports. Et par rapport à ça, on est sorti la mesure gouvernementale qui est le savoir rouler.
Oui, alors ça veut dire que vous avez commencé à travailler avec le ministère de l'Éducation nationale, notamment pour éduquer les scolaires, leur apprendre tout simplement le code de la route, la manière de se conduire quand on est à vélo. Et vous le disiez, il y a une mesure, le fameux savoir rouler qui a été retenu par le gouvernement. Elle va être annoncée en détail, je crois, très bientôt, hein, mois d'avril.
Je voulais remercier le ministère des Sports parce qu'ils ont fait un très très gros travail sur le savoir rouler. Quand on avait lancé cet appel à la sécurité de tous les cyclistes, l'ancienne ministre des Sports, Laura Flessel, nous avait répondu en disant « on va vous écouter et on va faire des choses pour vous ». Et c'est le ministère des Sports, j'insiste bien là-dessus, qui a pris la décision de travailler sur le savoir rouler auprès de tous les scolaires. Donc par rapport à ça, on a fait plusieurs réunions et on a travaillé sur cette mesure gouvernementale avec d'autres associations et d'autres fédérations. Et c'est vrai que très prochainement, au mois d'avril, ça va être annoncé, mais le lancement de cette grande opération va être fait par l'État, les associations et les fédérations.
Oui, parce qu'en fait, vous vous êtes aperçu, parce que vous avez commencé à travailler avec des classes, une quinzaine je crois, vous vous êtes aperçu qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas rouler à vélo, tout simplement.
Tout à fait. Aujourd'hui, le problème qu'on a avec les enfants et puis les autres usagers qui pratiquent le vélo, on s'est rendu compte que les gens ne savent pas circuler correctement, ne savent pas utiliser correctement leur vélo. Ils pensent savoir le faire, mais en fait, non. À partir du moment qu'on se mélange avec les autres usagers de la route, et ben, tout simplement, on a cette petite inquiétude parce qu'on a peur et parce qu'on ne sait pas le faire correctement. Et là, il y a un vrai travail de formation à faire.
Et si les enfants savent le faire, ils vont en parler avec leurs parents, ça va faire boule de neige aussi.
Tout à fait. Ce qui est très intéressant avec cette mesure gouvernementale, comme le savoir nager, c'est en fait, on va former nos jeunes. Ces jeunes vont pouvoir diffuser un message auprès de leurs parents. Eux-mêmes vont être en sécurité quand ils vont aller à l'école ou quand ils vont prendre leur vélo, tout simplement pour se promener. Mais aussi, ces jeunes, quand ils vont passer leur permis de conduire, auront cette notion du respect du cycliste.
Que dit notre coach, Sylvain Lambert ?
Moi, j'ai vu une chose extrêmement intéressante, c'est que vous, en tous les cas, vous avez des partenariats avec les gens de la moto, les gens de la voiture et votre association. Là, vous citez des exemples de sécurité liés à l'apprentissage du vélo. je ne connais pas bien le sujet, mais pour comprendre, est-ce qu'il y a aussi une part des choses qui sont à l'apprentissage du vivre avec le vélo quand on est automobiliste ou motard? Et est-ce que vous adressez aussi, via vos partenariats, à ces publics-là?
Évidemment. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on reste seulement avec notre communauté. Parce que vous savez, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui dénoncent sur les réseaux sociaux, mais qui n'agissent pas. Et quand on a créé l'association Mon Vélo est une vie, on s'est dit, si on veut être en sécurité, bah, il va falloir tout simplement travailler en collaboration avec les autres usagers de la route. Donc on a fait un partenariat avec 40 millions d'automobilistes et la Fédération française des motards en colère. Et à travers ces deux autres associations, on essaie de faire passer un message de sécurité, de cohabitation et d'apaisement aussi sur la route. Et ça, c'est quelque chose de très important.
Et vous avez aussi développé un partenariat avec Félix, hein, les mototaxis, ça c'est
tout
important. Finalement, voilà, vous circulez aussi à deux roues.
Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème avec une personne qui travaille dans une société taxi-moto, avec un cycliste. Donc ça a été dénoncé sur tous les réseaux sociaux, mais toujours pareil. On dénonce, mais on ne fait rien derrière. J'ai pris l'initiative de contacter ce responsable de société en lui demandant si ça l'intéressait de travailler en partenariat afin de former tous les chauffeurs de la société. Et depuis, à peu près 6 mois, on travaille ensemble, on forme tous les chauffeurs sur le bon comportement à adopter en moto et aussi en vélo.
Elisabeth, on parlait tout à l'heure de savoir rouler à vélo, savoir nager aussi. Je crois que vous avez relevé justement une initiative.
Oui, c'est étonnant. Ça se passe à Nantes. Ça va se renouveler chaque mois. Les cyclistes sont invités à circuler avec une frite en mousse, hein, la même que celle que l'on utilise à la piscine, pour éviter les dépassements dangereux. Ça s'est passé donc au début du mois de février. C'est l'association Place en Vélo qui a initié cela. Pour que les distances de sécurité soient enfin, et une bonne fois pour toutes, respectées par chacun. Je vous rappelle juste les distances. 1 mètre en ville, 1,50 m hors ville.
Oui, je vois que vous opinez du chef, hein, Théodore oui. Bartuccio. C'est une initiative que vous connaissiez?
Oui, je l'ai vue sur les réseaux sociaux. Mais
là, on va aller voir avec la mousse.
Oui, mais je trouve ça dommage quand même que ça soit le cycliste qui est obligé de mettre un accessoire.
Vous dites que c'est tous ensemble qu'il faut agir.
Voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi au niveau des automobilistes. Et c'est à travers ce partenariat qu'on a avec les autres associations qu'on essaie de faire comprendre aux automobilistes que le cycliste est vulnérable sur la route et qu'il faut tout simplement respecter. C'est du partage.
Et vice-versa.
Voilà, tout à fait. Et je pense qu'il y a vraiment cette prise de conscience à avoir aujourd'hui.
On reste ensemble, on continue à pédaler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, 39-21. Venez poser vos questions à nos invités. On partage la route à vélo ce midi. A tout de suite.
Innovation, sécurité. Aujourd'hui, la France bouge et on s'intéresse à ceux qui circulent à vélo. Si c'est votre cas, venez réagir maintenant. N'hésitez pas à nous apporter vos témoignages, à poser vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et puis on vous lit également sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Sylvain Lambert, notre coach aujourd'hui associé au cabinet PwC, ma complice Elisabeth Assayagela et nos invités, Adrien Lelièvre, dirigeant fondateur du groupe Véloci Industrie, Romain Afflelou, président de Cosmo Connected, fabricant de feux de freinage connectés, et Teodoro Bartuccio, cofondateur de l'association Mon Vélo est une vie. On a une première question, elle s'adresse à vous Adrien Lelièvre, c'est Michel qui est en Charente-Maritime et qui nous dit peut-on avoir plus de détails sur le fonctionnement du vélo électrique, son rendement, quelle est la restitution par rapport à l'effort donné? Alors moi, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas d'effort. Alors, ça, j'ai retenu.
La première étape, effectivement, c'est de convertir l'énergie du cycliste, l'énergie musculaire, en électricité. Donc effectivement, la question qui s'adresse au rendement est très bien trouvée, puisque tout l'enjeu, et ça a été l'objet justement de nos développements sur ces 3 dernières années avec mon équipe constituée d'Éric Rouvière, qui est ingénieur en électronique, et Edgar Tournon, qui est jeune doctorant au laboratoire Ampère, c'est justement d'atteindre des niveaux de rendement très élevés pour ne pas avoir de pertes. Alors on atteint aujourd'hui en fait un rendement de 90% contre 95% pour une traction par chaîne.
Ouais, vous avez fait plusieurs prototypes, hein, je crois, avant d'arriver justement à...
Tout à fait, on a fait 2 prototypes. Exactement. Aujourd'hui, on a un prototype qui est justement à l'équilibre et qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, on s'intéresse pour la partie commercialisation à l'architecture mécanique qui est très libre puisqu'il n'y a plus de transmission mécanique. Et donc sur la partie rendement,
il n'y a pas de chaîne, hein, on ne l'a pas dit, mais il n'y a pas de chaîne.
Plus de transmission mécanique exactement. Sur la partie rendement, en fait, au-delà du simple rendement de 90% qui est déjà excellent et qui permet en fait, d'avoir une mobilité douce tout à fait usuelle, on récupère en fait l'énergie dans plein de moments, de situations du trajet qui n'étaient pas possibles de faire sur un vélo classique ou un vélo à assistance électrique. Par exemple, avec notre système qui sépare complètement la production d'énergie par le cycliste et le déplacement, on peut récupérer l'énergie au freinage, on peut récupérer l'énergie également dans une descente, ce qui n'est pas possible sur un vélo à assistance électrique ou un vélo classique si on ne pédale pas plus vite que la roue libre. Donc il y a plein de situations comme ça où en fait on va récupérer l'énergie avec un confort de pédalage en fait en restant dans sa zone de confort qui permet d'élever notamment le rendement global.
Elisabeth, on est en train de parler des vélos électriques. Il y en a beaucoup finalement en France.
Énormément,
moi j'étais étonnée.
Mais ouais, très difficile de faire un choix parce qu'il y en a énormément. Il y a Sun E, le premier vélo électrique solaire fabriqué en France. Vous avez encore Colline, fabricant de vélos électriques haut de gamme qui est implanté à Bayonne. Ça existe depuis 2014. Vous avez une autre qui a été récompensée cette année à Las Vegas, c'est Pragma Industries. Alors là, le concept repose sur une pile à hydrogène. Qui permet une autonomie de 10 km, ça va vous intéresser Sylvain, et un temps de recharge inférieur à la minute, là où les vélos électriques classiques ont besoin de 3 ou 4 heures pour refaire le plein, là c'est un temps de recharge inférieur à une minute.
Et notre vélo qui sera commercialisé l'année prochaine, il est made in France. Je me tourne du coup vers vous, Romain Afflelou. Cosmo Connected, c'est conçu en France, c'est en revanche réalisé ailleurs. Pourquoi ? Il n'y avait pas la possibilité de fabriquer complètement en France ?
Non, en fait, toute notre R&D, le design, nos ingénieurs sont en France. Et aujourd'hui, on travaille avec l'un des plus gros groupes, les plus gros fabricants de LED au monde, qui est une société américaine qui s'appelle Varroc Lighting, qui est spécialisée dans les LED automobiles, tout ce qui est Tesla, Range Rover, General Motors et Harley Davidson. Et en fait, le patron est français. On s'est rencontrés l'année dernière au CES. On a matché et puis ils ont la dernière technologie de LED. Et c'est ce que je cherche. Enfin, je cherchais la possibilité d'avoir la meilleure technologie qu'on va retrouver dans les voitures ou dans les motos, mais le mettre au sein de toutes les nouvelles mobilités et si possible en dessous de 100 euros. Donc, prendre la technologie la meilleure. Et voilà, c'est pour ça qu'on travaille avec eux.
Avec un gros développement à l'international prévu aussi.
Oui, aujourd'hui, on est présent dans une dizaine de pays, mais on travaille avec la société Michelin, le groupe Michelin, où en fait, on est partenaire exclusif pour les 4 prochaines années, où nos produits, motos, vélos et casques, puisqu'on développe aussi nos propres casques de vélo, seront logotés Michelin, donc pour la Chine et la Thaïlande.
Et puis on parlait de sécurité, vous êtes aussi en partenariat avec un gros groupe d'assurance, c'est important, oui. Ça veut dire qu'il y a aussi une prise de conscience de leur côté,
en fait,
d'un changement d'habitude, d'un changement d'usage.
Moi ma priorité c'était d'arriver et de dire ok, on va parler de sécurité, il faut qu'on s'associe avec tous les gros acteurs, que ce soit dans le monde de la moto ou du vélo, et principalement dans les assurances, on fait partie du programme d'accélérateur d'Alliance, qui on travaille voilà, pendant les 6 prochains mois à trouver des solutions pour... on travaille sur des sujets smart cities. Vous savez, toutes les villes commencent à s'équiper.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé des trottinettes, mais on aurait pu. Hein.
On aurait pu, surtout que le produit bike s'adapte très bien pour les trottinettes, puisqu'on peut garder en fait, nos mains sur le guidon lorsqu'on va tourner. On va appuyer simplement sur la petite télécommande pour qu'on indique qu'on tourne à gauche ou à droite. Donc, c'est aussi très, très intéressant pour nous.
Le coach, Sylvain.
Il a une question intégrée, le coach. Intégrée, ça veut dire pour les trois. La multiplication des solutions que vous évoquiez ou de la vôtre vont probablement élever la vitesse moyenne de déplacement des cyclistes, j'imagine, puisque les gens vont pouvoir rouler à une vitesse un peu plus élevée avec un effort. Et est-ce que ça ne pose pas alors des questions éventuelles de sécurité ou d'adaptation? Parce que l'automobiliste ou le motard voit un vélo, il sait qu'à moins que ce soit un champion du Tour de France, il s'attend à une certaine vitesse. Là, s'il ne reconnaît pas que c'est un vélo assisté, il risque d'avoir une surprise et donc on risque d'avoir de plus en plus besoin d'options de signalisation par rapport à des vélos. Est-ce que c'est une réalité ou pas du tout? Est-ce que vous y avez pensé, par exemple, l'un de vous, dans vos réflexions?
Théodore Bertuccio.
On le sait bien, hein, de toute façon, aujourd'hui, une personne qui prend un vélo avec une assistance électrique et qui n'a pas d'habitude, il va avoir une difficulté à le piloter, tout simplement. Aujourd'hui, les vélos sont bridés à 25 km/h, ce qu'on peut trouver en libre-service. Et après, il y a d'autres vélos, mais là, il y a une plaque d'immatriculation avec une carte grise et je crois qu'ils atteignent plus de 40 km/h. Oui, la personne qui n'a pas l'habitude et qui prend un vélo avec une assistance électrique, automatiquement, il va se mettre en danger. Et on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que moi, je pense que si on veut développer l'aspect sécuritaire par rapport à tous les cyclistes, il va falloir les former. On ne peut pas se permettre de mettre des gens sur des vélos et qu'ils ne soient pas formés. Ce n'est pas possible.
On va être obligé, malheureusement, de cesser le débat à ce moment de l'émission. Je suis désolée pour la question intégrée, Sylvain. On refera évidemment des émissions sur le vélo, c'est promis, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Je vous remercie à tous les trois d'être venus aujourd'hui sur Europe 1.
Merci à vous.
Il est 13h37.
Europe 1.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et il est temps, Raphaël, de découvrir la très belle et douce entreprise qui va bien aujourd'hui.
Et cette entreprise, eh bien, c'est Porto qui fabrique du linge de maison depuis 1920. Bonjour Salomon Soussana.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Porto. C'est le nom de famille des créateurs. Et le D qui est devant, c'est pour Daniel, l'époux, qui est aussi le financier à l'époque quand tout démarre. Sauf que la créatrice, c'est Madeleine.
En fait, c'est une entreprise effectivement qui est au départ une entreprise familiale fondée par Daniel Porto, donc le D de D Porto. Dans les années 20, il a commencé à travailler autour du métier du tissu. Il avait des machines à tisser et vendait du tissu, en quelque sorte. Il était négociant dans cette matière-là. Et il a rencontré, quelques années plus tard, son épouse, Madeleine, qui est la véritable instigatrice, enfin, la fondatrice, en quelque sorte, de la partie créative de la maison Porto, telle qu'elle existe aujourd'hui, avec certains caractéristiques assez iconiques de la maison, notamment ses imprimés. Porto est très connu pour ses imprimés. Mais c'est elle qui, au départ, effectivement, a, en quelque sorte, mis les bonnes directions vers ce qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, c'est elle qui va vraiment faire connaître aussi le linge de luxe Porto, parce que ce linge va être distribué à l'époque à des acteurs, à des actrices, au Kennedy, enfin à des grands noms qui connaissent le linge de maison Porto.
Exactement, c'est effectivement la maison Porto est connue du monde, on va dire, de ce monde de la haute société. Ça a démarré un peu comme ça.
Marilyn,
par exemple. Catherine Deneuve, pour être un peu plus dans
franco-français,
exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Porto est une société déjà dans l'innovation, déjà dans les années 20, puisque le linge, à cette époque-là, était immaculé blanc. Tout le linge de maison, c'était
que du blanc. Trousseau, hein,
le fameux trousseau
qu'on faisait à l'époque.
Effectivement. Il était éventuellement quelques broderies, un petit peu de couleur dans les broderies, mais
les
c'est tout.
Les initiales peut-être parfois.
Exactement.
Et c'est tout.
Voilà, c'est tout. Et le déclic a été dans les années, fin des années 30, où, lors des voyages de Madeleine Porto, notamment à New York, où elle a commencé à voir de la couleur et s'inspirait beaucoup du monde de la peinture, de Cézanne, etc. Et elle a commencé à imaginer, elle a eu un déclic, et elle a dit le linge, pourquoi le linge de maison est si blanc.
Et
à partir de là, on a inventé les imprimés.
Fleury notamment.
Notamment Fleury. Mais surtout, elle a mis de la couleur dans le linge, ce qui était révolutionnaire à l'époque.
Et aujourd'hui, c'est encore la marque de fabrique de la maison. Hein. Ça se fait toujours à l'ancienne, comme dans les années 30-40.
Ça a légèrement évolué, mais ça reste très artisanal. Au tout début, c'était de la peinture à la main. Mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que vous imaginez faire du linge de maison avec la peinture à la main. Voilà. Ensuite, c'était des planches en bois, comme des tampons, qui étaient en quelque sorte appliqués sur le linge. Et déjà dans des très grandes tailles, des très grandes largeurs, puisque pour faire des draps, il faut quand même une certaine largeur. La technique a un peu évolué, mais ça reste une opération très manuelle.
Vous faites toujours l'impression au cadre.
C'est de l'impression dite au cadre, effectivement. C'est de la sérigraphie, mais les colorants sont appliqués à la main, avec des machines pneumatiques, mais ça reste très, très manuel. Et c'est ce qui donne toute cette profondeur de couleur qui est inimitable, notamment on ne peut pas avec des machines numériques arriver à de telles couleurs. Quoi.
Avec un savoir-faire qui se transmet finalement de génération en génération, parce que vous avez des mères et des filles qui travaillent dans vos usines, à Cambrai notamment.
Oui.
Vous avez, je crois, quelque chose comme 600 dessins dans vos archives.
Il y en a même un peu plus que ça. Ça veut dire que les archives, il y a des dessins imprimés évidemment, et là on a une série de cadres assez impressionnantes, et on a des dessins aussi dans nos archives qui ont été scannés, hiérarchisés. On a peut-être des dessins actifs, autour de 1000 dessins actifs en termes d'imprimés. En termes de broderie, c'est encore plus, puisque en fait on est une maison qui fabrique énormément en commande spéciale. Et donc, on va s'inspirer de dessins particuliers, mais il va y avoir là c'est des dizaines de milliers de possibilités. Donc là,
et on en a quelques exemples avec nous sur Europe1.fr,
oui,
avec des nouveautés notamment, avec une gamme pour les enfants que vous avez pensé.
Oui.
C'était important justement de s'adresser à tous les publics. C'est une maison qui a eu des difficultés. Oui. En 2005, Marc Porto, le fils, laisse la maison, la revend à des Texans qui vont investir beaucoup, mais qui manifestement n'ont pas fait les bons choix.
Oui.
L'entreprise est au bord de la faillite. Elle repart. Oui. Aujourd'hui, elle va mieux. Oui. Vous avez réussi à relancer le chiffre d'affaires. Il est en hausse.
Il est en hausse de plus de 20-25% sur 2018. Donc effectivement, on va mieux. Dans le sens où on a besoin de cette croissance parce que c'est une société qui est un peu familiale dans le sens, hein, vous avez bien dit, il y a des mères-filles effectivement qui travaillent à l'usine, mais il y a tout un jeu de savoir-faire assez unique, hein, on est reconnu pour ça, pour notre savoir-faire, et la maison effectivement mérite tout ce travail qui est accompli par les équipes et qui cette année nous a permis de progresser en termes de chiffre d'affaires. Donc ça va mieux effectivement et on essaye d'aller encore plus en avant en faisant ces accompagnements notamment avec la partie qu'on a appelée My Little Porto qui est une marque en quelque sorte dans la marque qui s'oriente vers le marché des enfants un peu pour passer le relais des grands-mères vers leurs petits-enfants. Sachant que c'est une marque quand même qui effectivement le linge était parfois transmis, le linge Porto de mère à mon fils, c'était un peu, fait partie du patrimoine des familles.
Oui, un peu l'héritage. Que dit notre coach Sylvain Lambert ?
Quels sont les principaux clients aujourd'hui qui est les parts de votre chiffre d'affaires et surtout vous attendez quoi pour le futur ? C'est-à-dire parce que c'est l'accroissement de ces parts ou que certains apparaissent qui n'y sont pas aujourd'hui ou vos principales cibles ?
Alors aujourd'hui notre chiffre d'affaires c'est à peu près 40% de ventes retail, ça veut dire en magasin hein, simplement vers monsieur et madame tout le monde en quelque sorte, mais c'est beaucoup de clientèle en commande spéciale. Et il y a un autre marché qui est le marché plus hôtellerie ou business, ça veut dire commande particulière sur des clients particuliers et les décorateurs. Aujourd'hui, donc, je dis, c'est à peu près 40% pour le retail, 60% pour tout ce qui est ce type de marché.
Vous travaillez beaucoup à l'export aussi.
On travaille principalement à l'export et notamment même dans ces 40% de retail, plus de la moitié sont des clients étrangers en réalité.
Elisabeth, qu'est-ce que vous vendez le plus ?
Ben, en fait, tout le linge de maison, en fait, c'est à peu près, on fait à la fois du linge de table.
Là, on a des draps, on a des serviettes.
Voilà, tout à fait. Donc, on a trois univers, en quelque sorte. Le linge de bain, le linge de table et le linge de lit. Donc, c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers.
Vous avez un produit phare qui vous caractérise ?
Il n'y a pas vraiment de produit phare. Il y en a par contre certains imprimés ou certains dessins iconiques qui nous caractérisent, comme les cœurs qui ont été initiés par la duchesse de Windsor.
Les trèfles aussi.
Les trèfles par Louise de Valmorin, qui ça a été inspiré par sa signature. C'est deux des iconiques, mais il y en a d'autres. Puis il n'y a pas un dessin particulier. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une caractéristique, c'est nos matières. Nos matières, il faut savoir que l'on tisse nos matières chez nous, en France, à Argentan. Aussi bien de l'éponge, ce qui est très rare. On tisse de l'éponge, on tisse nos matières. Donc on a un process qualité qui demande à ce que nos produits soient simplement parfaits. Et on y accorde beaucoup d'importance. Et on a notamment le voile de coton, qui est un produit phare chez nous, donc, et qui a en fait un toucher et une sensation assez unique, qui fait que celui qui a dormi dedans, il ne pourra pas acheter autre chose que du Porto.
Porto, c'est aujourd'hui l'entreprise qui va mieux, l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h49.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Une idée, tiens, pour les têtes en l'air qui, comme moi, sont toujours à la recherche de leur clé. La solution est connectée, elle s'appelle Wistiki. À tout de suite.
La France bouge jusqu'à 14h tous les jours avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours, juste avant 14h, vous nous proposez la solution du jour. Et aujourd'hui, elle va changer la vie de tous les têtes en l'air.
Oh oui, perdre ses affaires, cela nous est tous arrivé. Heureusement, il y a une solution, Elisabeth, ça s'appelle Wistiki.
Oui, Wistiki, c'est un porte-clés, mais c'est pas n'importe lequel. Grâce à un système intelligent de géolocalisation, Wistiki vous permet de ne plus perdre, par exemple, vos clés de voiture, votre téléphone, le collier de votre chien. C'est un porte-clés qui a été imaginé par trois frères alors qu'ils étaient encore étudiants. Ces trois frères ont su convaincre des investisseurs de mettre de l'argent dans ce porte-clés. Et la particularité de ce porte-clés trouve tout, hein, c'est que chacune des étapes de sa fabrication a lieu en France, d'Amiens à Bayonne, en passant par Calais. Tout est français.
Et l'un des frères, l'un des fondateurs de Wistiki est avec nous. Bonjour Hugo Lussato.
Bonjour Raphaël, bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Racontez-nous comment est venue l'idée, vous perdiez tout ?
Ouais, mes deux frères et moi, on est clairement des têtes en l'air. On est clairement des têtes en l'air et il nous arrive même de perdre notre chat. Donc c'est là que nous est venue l'idée de Wistiki. un petit tracker pour retrouver tout ce qu'on n'a plus envie de perdre, tout ce qui nous tient à cœur.
Alors comment ça fonctionne? Je peux perdre n'importe quoi et le retrouver grâce à votre porte-clés?
Oui, c'est aussi simple que ça.
Une bague, par exemple?
Bon, là, c'est un petit peu petit. mais dans l'idée, non, mais en fait, vous achetez notre produit, notre objet connecté. Par exemple, moi, là, je suis venu avec mon Wistiki qui est format carte de crédit. Donc, je l'ai glissé dans mon portefeuille. Et en fait, c'est tout fin, vous voyez, il fait seulement 2 mm d'épaisseur. Vous le glissez dans votre portefeuille et ensuite...
Comme une petite carte.
C'est ça. Ensuite, ça va être connecté à votre application smartphone Wistiki.
Donc, il faut se connecter.
Tout à fait. En fait, il y a une phase d'initialisation. Vous connectez l'appareil à votre smartphone et ensuite, vous êtes lié à votre objet pour toute la durée de vie du produit.
Mais alors comment, d'abord pour les étapes de fabrication, ce qui est rare hein, pour être souligné, c'est un produit électronique, tout est français.
Complètement. En fait, nous, c'était le gros challenge quand on a lancé notre boîte. Tout le monde nous a dit qu'il fallait partir en Chine pour faire des produits électroniques grand public. Et nous, à l'époque, on était encore un petit peu jeunes. Moi, j'avais 21 ans, j'étais en école d'ingénieur. Et on s'est dit non, on a envie de le faire en France, on a envie de montrer que c'est possible, quoi, parce qu'on avait... on avait le sentiment qu'il y avait quand même un écosystème en France qui avait énormément de capacités de production. Moi-même, en école d'ingénieur, on avait visité des centres, des usines, et je me suis dit, mais non, en fait, si j'ai visité ça pour des grandes marques françaises, pourquoi pas nous? Donc, c'est vrai que Apple, Samsung, enfin, pour ne pas citer les grands noms, mais en tout cas, ils font ce choix du Made in China. Nous, on s'est dit, non, on va le faire en France. Et résultat, on a pu créer 100 emplois en France, comme ceci, en fabriquant d'un côté les cartes électroniques, de l'autre, les pièces plastiques. Ensuite, il y a beaucoup d'assemblages, de tests. Bon, je ne parle pas de toute la partie logistique, mais en tout cas, c'est un challenge qui a nécessité en fait, d'investir beaucoup en intelligence, en engineering au début. Parce que si on se met un petit peu à faire les choses sans trop réfléchir, on va en fait faire des produits qui coûtent très cher. Et nous, on a la particularité d'être made in France et d'être ultra compétitif.
Que dit notre coach, Sylvain?
Justement, on me tend la perche. Le prix et la durée de vie?
Alors, on a un produit qui coûte 29,90 €. Donc c'est un prix qui est assez abordable, en tout cas nos clients sont satisfaits et il y a une durée de vie de 3 ans inclus dans le produit. Donc c'est là où on a révolutionné le marché du tracking en temps réel puisque il y a encore 10 ans, les trackers ne faisaient que 5 jours d'autonomie et n'avaient pas du tout cette esthétique et ce minimalisme. Donc c'est là où on a réinventé le marché de la géolocalisation avec... ces trackers connectés.
Et vous géolocalisez à combien de mètres? Je le perds où? Je le retrouve où?
Alors en fait, il y a plusieurs scénarios. Si vous le perdez dans une courte distance, vous allez pouvoir le localiser en le faisant sonner. Donc là, c'est un cas qui est utile si vous êtes chez vous.
Ça marche dans la maison,
par exemple.
Voilà,
dans la maison. Et si vous avez perdu vos affaires à l'autre bout de la France, par exemple, vous arrivez au bureau et vos clés, vous ne les trouvez pas, et bien sur l'application, vous avez un point qui va retenir la dernière position.
Elisabeth.
Extraordinaire. Vous dites que vous voulez bâtir un empire avec vos frères. C'est quoi la suite de Wistiki?
Alors, la suite de Wistiki, c'est vrai qu'on on a passé quelques étapes là en 6 ans, parce que là, on rentre sur la 7e année, donc il y a des nouveaux challenges. On dit en général la pérennité de la boîte, c'est à peu près maintenant. Maintenant, on veut voir les choses en plus grand. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on s'est développé en Europe, en Asie, aux États-Unis. C'est déjà pas mal, mais on s'est développé avec la force de nos petits muscles. Et aujourd'hui, on est en train de se lier à quelques grandes marques françaises pour intégrer notre technologie directement dans les produits, dès leur fabrication. De sorte à ce que les produits...
Comme par exemple, quelle marque?
Alors aujourd'hui, on a signé un partenariat avec une marque de maroquinerie qui est l'un des leaders français, qui est mondialement connu, il est présent dans 150 pays. Et on va se lancer dans ces 150 pays avec une annonce au mois de juin. Donc d'ailleurs,
vous reviendrez nous en parler.
Voilà, on en reparlera.
Ça marche
vous
avec grand
plaisir.
Vous nous
direz tout au mois de juin. Merci beaucoup. Ça s'appelle Wistiki, c'était la solution. Nous, on se retrouve demain.
À demain.
Elisabeth, merci à Sylvain, qui était notre coach
merci.
Aujourd'hui, Sylvain Lambert. Bientôt, hein, Let's Go France. Hein.
Absolument.
On en parlera aussi.